Bonjour, je suis Colette, cofondatrice de l'association Mille Pattes. Retrouvons-nous pour parler agriculture, alimentation, circuit court et écologie sur notre territoire. Si le développement des filières locales et le bien manger vous intéressent, suivez-nous. Prenons ensemble la clé des champs.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Content de vous retrouver sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Et nous allons parler agriculture parce que, comme vous le savez, dernièrement, il s'est passé plein de choses, en particulier dans notre ville de Carbonne, qui a été un petit peu le centre de la France pendant quelques jours, on va dire, qui a eu la visite de personnages assez importants. Et pour en parler, j'ai autour de la table ici à Rieux-Volvestre quatre personnes qui sont intéressées par le monde de l'agriculture, des agriculteurs, mais pas que. Et on va essayer de comprendre avec eux ce qui s'est passé, pourquoi on en est là aujourd'hui et comment faire pour peut-être améliorer la situation. Pour en parler d'abord, je suis avec Frédéric Morizeau de l'association Mille Pattes. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Très rapidement, l'association Mille Pattes, c'est quoi ?
Un trait d'union entre les agriculteurs et ce que j'appelle les citoyens consommateurs dans tous les domaines. En deux mots, c'est ça.
Bien, merci. On aura l'occasion d'en reparler. Vous pourrez d'ailleurs retrouver nombre d'émissions de l'association Mille Pattes dans la clé des champs ici sur le podcast de Radio Galaxy. Ensuite, je suis avec Dominique. Dominique, bonjour.
Dominique de Villepillière, je suis à Lavernos, je suis un retraité actif. Alors je dis actif parce que j'ai un fils qui a pris la suite de l'exploitation. Alors nous sommes sur une exploitation de 80 hectares, tout en irrigué, maïs, soja, céréales. Et ensuite, avec deux autres voisins, en 1992, on s'est diversifié dans des asperges vertes en circuit court. Et depuis quelques années, par une cueillette de fraises à la ferme, sur Lavernos.
Sur Lavernos la casse, d'accord. Bon, vous êtes à la retraite maintenant, et depuis le temps, vous avez vu l'évolution de cette agriculture à travers les âges, j'allais dire.
Tout à fait. Si vous voulez, quand mes parents sont arrivés sur l'exploitation en 1966, cette exploitation faisait 50 hectares et faisait vivre 4 familles. Mes parents et 2-3 autres familles. Mais à ce moment-là, il y avait de la vigne et des vaches laitières.
Florian, vous êtes un peu plus au sud du département.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Florian Leguet, donc moi je suis producteur multicasquette, on va dire, très diversifié. Donc des vaches laitières, de la volaille de chair, des poules pondeuses et une activité de transfo farine, pâte et huile.
Comme pour Dominique, vous avez plusieurs activités au sein de votre exploitation. Le fait d'avoir plusieurs activités, c'est important pour vous? C'est parce qu'il fallait diversifier pour des histoires de revenus?
Pour des histoires de revenus au départ, et dès qu'on commence à se diversifier, et en plus à vendre en circuit court, ça devient des convictions.
D'accord, après c'est un choix personnel de travail en circuit court pour répondre à la question de nourrir la population, ça va être le thème de cette émission. Et pour terminer, Anaïs, bonjour.
Bonjour.
Anaïs, vous élevez des brebis, c'est ça ?
Oui, je suis installée à Fontenay avec 80 brebis laitières. Et donc installé en 2022 et j'ai démarré la fromagerie en décembre, là il y a 3 mois.
Vous êtes seule sur l'exploitation, vous êtes accompagnée?
Je suis installée sur la ferme de ma belle-famille qui fait 120 hectares à peu près de céréales diversifiées.
D'accord, et donc ça c'est un choix personnel en tant que femme agricultrice, femme éleveur et fromagère sur cette exploitation?
Oui bien sûr, il y avait la volonté vraiment de créer mon entreprise individuelle. Pour dissocier la belle famille et puis moi aussi, en tant que femme, avoir une réelle place.
Donc le thème de cette discussion, c'est après, on disait avec les mouvements qui se sont installés sur Carbonne, c'est comment vivre de son agriculture et rappeler surtout que l'agriculture, l'agriculteur, les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas une seule agriculture, il n'y a pas un seul agriculteur, mais plusieurs agricultures, plusieurs agriculteurs répondent à un besoin vital qui est se nourrir. Et le rôle de l'agriculteur, c'est ça, se nourrir avant tout. En préparant l'émission, Florian, vous nous avez dit tout de suite, il y a eu une première chose, c'était on s'est rendu compte que pendant le Covid, les gens se sont rappelés qu'il y avait des agriculteurs.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que par rapport aux problématiques qu'on a connues il y a quelques jours sur la 64, beaucoup de solutions, finalement, ne passent même pas par le gouvernement, ne passent par personne. C'est entre le consommateur et nous, finalement, il y aurait du retour dans nos fermes, comme on l'a connu pendant cette période de Covid, qui a été une période compliquée, mais à la fois qui a permis de montrer que les gens se rappelaient qu'il y avait des agriculteurs, se rappelaient d'où venait la nourriture. Le problème, c'est qu'ils nous ont vite oubliés dès que le Covid est passé, quoi.
Ils sont vite retournés à leurs habitudes d'aller consommer en grande surface, par exemple, ou auprès de gros distributeurs.
C'est ça.
Pourtant, Frédéric Morisseau, chez Milpat, vous avez l'habitude de travailler avec les normes, de travailler avec les réglementations, parce que c'est votre métier de cœur d'aller observer tout ça et de travailler avec les agriculteurs. Il y a des lois qui existent, comme la loi Egalim, par exemple, qui imposent certaines normes, qualités et procédures.
Effectivement, alors on a beaucoup reparlé ces dernières semaines de la loi Egalim qu'on avait un petit peu oubliée, ou en tout cas dans les grands médias. C'est une loi qui remonte maintenant à 5 ans et qui a clairement deux volets. Un volet qui concerne les relations commerciales entre la grande distribution et les producteurs et qui, en deux mots, contraint en principe la grande distribution à acheter les produits à un prix supérieur au coût de revient. Et le deuxième volet, souvent appelé Egalim 2, il concerne les restaurations collectives, publiques mais de plus en plus privées, qui doivent acheter, s'approvisionner au minimum à raison de 50% de produits durables, donc généralement locaux mais pas que, et 20% de produits bio. Et donc ce sont deux outils extrêmement intéressants qui permettent sur le principe d'apporter de la réglementation, de privilégier le local, encore faut-il qu'ils soient mis correctement en œuvre.
Parce que la difficulté, c'est pour bon nombre d'agriculteurs qui sont dans les petites structures, c'est de vendre leurs produits correctement à un prix décent. C'est bien ça, Dominique?
Tout à fait. Et nous avons fait le choix de partir directement en circuit court pour éviter tous ces intermédiaires. On a la chance d'être à 30 km de Toulouse, dans un bassin de population assez conséquent. Donc on est parti tout de suite là-dessus. Vente directe à la ferme, marché et un peu de vente au restaurateur. Voilà.
Ça, c'est un choix que vous avez fait personnellement, mais ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs. Il y a encore des agriculteurs, enfin, il y a toujours des agriculteurs qui, eux, sont plutôt, j'ai employé un mot qui n'est pas un jugement de ma part, mais productivistes, qui sont là pour faire du volume et dont on a besoin aussi pour que ce soit le bétail ou les grandes exploitations, non, Florian?
Oui, tout à fait. Sur notre ferme, on fait des circuits courts, mais j'ai un troupeau de 55 vaches laitières. Si demain, j'ai pas des céréaliers à côté de moi qui produisent du maïs, du soja, je suis pas capable de faire toute l'alimentation, que ce soit pour mes vaches ou pour mes volailles. On essaye d'en faire le maximum sur la partie fourragère. Mais voilà, on est tous liés, en fait. On a aussi besoin des, entre guillemets, gros céréaliers. Alors, le gros et le petit, il veut tout dire et rien dire à la fois, quoi.
Sachant très bien que, je reviens encore une fois sur la problématique qui s'est passée sur le revenu des agriculteurs et surtout la qualité de vie dans l'agriculture, qui est quand même le fond du problème, c'est qu'il y a besoin des deux agricultures. Les uns ne sont pas contre les autres. C'est un ensemble qui permet à tout le monde de vivre en grande intelligence. Et vous, Florian, vous essayez de développer en particulier le lien avec les cuisines centrales, la restauration collective, parce que c'est par là que passera peut-être une des solutions des agriculteurs.
Oui, on essaye de travailler avec tout ce qui est restauration collective, cantine. D'une part, parce que c'est quand même un débouché assez conséquent. C'est des volumes assez intéressants aussi. Après, c'est un marché compliqué. On a eu ces jours-ci beaucoup d'annonces de la part des politiques. Faut que ça soit suivi d'actes. En gros, clairement, que le prix du repas soit augmenté. Qu'on mise vraiment sur ça pour développer l'agriculture et aussi pour éduquer nos enfants, finalement.
Parce que produire avec des normes, produire de qualité, c'est bien. Mais il faut que ce soit rentable aussi pour vendre correctement son produit. Anaïs, c'est ce qui vous arrive à vous. C'est-à-dire que vous produisez des fromages de chèvre que vous aimeriez vendre dans les cuisines centrales ou dans les collectivités, mais il y a un problème de prix de revient.
Oui, c'est exactement ça. Dès le départ de mon installation, j'avais l'intérêt de travailler avec les cuisines locales. Et en fait, quand il a fallu parler de chiffres, ça passait plus du tout, moi, pour en vivre. Donc,
comment vous faites aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai tout misé sur la vente directe. Donc c'est vrai qu'étant seule sur mon entreprise, dès le départ, pour faire la clientèle, ça me demande quand même de me disperser un peu partout. Mais c'est le temps que le bouche à oreille fonctionne. Mais pour moi, oui, la vente directe, c'est essentiel. Et si à terme, ça peut déboucher sur la collaboration avec les cuisines centrales, c'est intéressant pour l'éducation des enfants de consommer local et bio dès le plus jeune âge.
Vous avez des labels, des certifications?
En conversion bio.
Et la difficulté, Dominique, je vais revenir vers vous, c'est justement, ce sont ces marchés publics, d'entrer pour des petites structures, d'entrer dans les arcanes des marchés publics.
Voilà, alors nous sommes très sollicités aussi par les cuisines centrales, les collectivités locales, mais on a fait le choix, on n'est pas assez gros pour aller sur ce marché. Donc, on privilégie plus petit, on préfère produire moins, de qualité, et d'avoir directement le consommateur en face de nous. Parce que, vous savez, c'est une grande satisfaction d'avoir son consommateur, sa cliente, devant vous, et qui amène une autre cliente ou un autre client sur votre étal. Et ça, c'est, j'allais dire, si on part dans la grande distribution, dans les cuisines centrales, on n'aura plus ce contact.
Non, mais c'est anonyme dans la grande distribution, alors que là, c'est de la relation personnelle.
Tout à fait, voilà, oui. Et ben, ça fait 25 ans que ça dure, et il y a même des rapports privilégiés et familiaux avec certains clients.
C'est-à-dire que vous avez eu les parents, vous avez les enfants et bientôt les petits-enfants.
Tout à fait, oui.
Florian, pour vous, c'est une des réponses, ça, c'est que les consommateurs reviennent directement près du producteur.
Oh, clairement, oui. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. On le dit souvent, c'est le consommateur qui a le pouvoir avec la carte bleue. Mais c'est clairement ça. On parle beaucoup, la grande distribution, le machin, l'industriel a pris telle ou telle marge. Il l'a pas réparti comme il faut, machin. Mais si le consommateur, il vient directement chez le paysan, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Le consommateur, déjà, il accepte de payer le prix qu'on lui propose parce qu'il voit le travail qu'il y a derrière le produit. Et le paysan vit bien parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire.
En fait, c'est les intermédiaires, surtout, qui sont entre les deux, qui, à chaque fois, rajoutent un petit pourcentage de marge sur le circuit du produit. Pourtant, Frédéric, je vais te dire comme ça, de façon un peu provocatrice, les agriculteurs ont remis dans les mains de la grande distribution pendant de très nombreuses années les circuits commerciaux.
Effectivement, on peut dire qu'il y a un basculement dans les années 60 et 70. Et maintenant, il y a ce retour au circuit court qui avait toujours existé, mais avec un regain d'intérêt. Mais tout en prenant en compte la remarque faite par Florian, le fait que l'apothéose, entre guillemets, ça fait un peu drôle de dire ça, c'était la période Covid. Et maintenant, les mauvaises habitudes sont revenues.
On se rend compte aujourd'hui, en 2024, que les solutions qui ont été préconisées après, bon, on l'a bien dit pendant longtemps qu'il fallait que l'agriculture nourrisse le peuple français, il fallait réindustrialiser l'agriculture parce qu'il fallait produire. On revient aujourd'hui à des gages de qualité, on revient aujourd'hui à des considérations de relations unipersonnelles entre le producteur et le consommateur. Et c'est un petit peu ce retour sur expérience qui fait qu'aujourd'hui on peut dire ça. C'est un peu ce que vous pensez, vous, Anaïs ?
Oui, tout à fait.
Pour vous, c'est quoi la solution pour que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur activité?
C'est une vaste question. Ça passe pour moi déjà par l'éducation à l'école, les formations agricoles, les cantines. Et ensuite, la vente directe, je trouve que ça amène ce que disait Dominique, ce contact très proche avec le client. Et moi, je le vois, j'ai démarré la vente directe ce samedi à la ferme. Et en fait, les gens, ils viennent, ils sont curieux de voir les animaux, l'odeur du foin. Ça leur rappelle plein de souvenirs d'enfance aussi. Et ça crée du lien. Et je pense que petit à petit, ben, ce lien, ça va grossir et faire qu'il y aura de plus en plus de conscience.
Et pour vous, Florian, ce mouvement qui a été initié ici à Carbone, à votre avis, ça va être quoi les retombées? Bon, il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau national. Il y a eu des choses qui ont été dites. À votre avis, ça peut donner quoi? Est-ce que pour vous, c'est une lueur d'espoir ou c'est on attend et on va observer?
Je vais faire une réponse de Normand. C'est un peu des deux. Lueur d'espoir, bon, ça fait un moment qu'on croit plus au Père Noël. Mais je pense qu'il y a eu clairement une prise de conscience de la part de certaines politiques qui peut-être avaient oublié un peu le monde paysan. Il y a eu une prise de conscience peut-être qui discutait pas au niveau national avec les bonnes personnes, parce que pour que ça vienne comme ça du terrain, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas.
C'est ce qui a été dit une fois, je crois, dans une des discussions auxquelles j'ai participé, qui était de dire que peut-être que les interlocuteurs auxquels on avait à faire face régulièrement ne faisaient pas remonter l'information jusqu'au sommet de la pyramide.
C'est ça, il y a tellement d'agriculture en France, voilà, on a l'habitude de le dire. Il y a le nord et il y a le sud, bon, mais sans vouloir faire de clivage entre les agriculteurs et les agricultures, finalement, ça a permis de remettre un peu les paysans, la base, au sens noble, aux yeux des décideurs qui pondent nos lois ou qui les valident. Après, j'espère qu'ils l'auront compris, et une chose est sûre, c'est qu'on reste en veille. Enfin, on a bien été clair depuis que M. Attal est venu dans le Comminges, c'est on vous laisse un peu de temps pour travailler. Attention à sortir des choses concrètes, quoi.
On verra ce qui va se passer au salon de l'agriculture prochainement, c'est ça. Oui, Dominique.
Oui, moi je voudrais rendre hommage à un homme du terrain, ici. S'il n'avait pas été là, est-ce qu'on aurait parlé d'agriculture pendant une semaine? Est-ce qu'on serait là autour de la table à parler d'agriculture? Je veux parler de Jérôme Bail. Il a fait beaucoup de choses pour l'agriculture. S'il n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, on a entendu des annonces. Maintenant, ces annonces, il faut les mettre en musique et on verra après.
Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce mouvement, comme on l'a dit en introduction, c'est qu'il est maintenant au moins européen. Il y a des manifestations d'agriculteurs en Hollande. Ça a démarré en Allemagne, voici maintenant plusieurs mois. Il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Hongrie, il y en a en Pologne. À votre avis, et là c'est à Frédéric que je m'adresse, les problématiques dans tous ces pays sont les mêmes partout, chacun a ses propres problématiques. Petite parenthèse, on disait qu'en France, on se plaint des fois des importations massives espagnoles, mais les Espagnols se plaignent également des importations massives françaises. Quelque part, c'est ce marché global.
Bah, c'est les deux, mon capitaine. Finalement, on est des sociétés occidentales, l'Europe de l'Ouest, et on a quand même des modèles de consommation qui sont de plus en plus alignés avec des nuances. Néanmoins, il y a des traditions historiques et culturelles, et on a la chance en France d'avoir une agriculture qui majoritairement reste paysanne, moins de grands domaines qu'en Allemagne ou même qu'en Italie ou ailleurs. On met l'alimentation au pinacle, donc avec des exigences réglementaires qui vont avec. De fait, on va vers l'harmonisation européenne, mais il y a forcément des distorsions et des équilibres à trouver. Si on parle effectivement de l'Espagne avant l'intégration dans l'Union européenne, eh ben c'était vraiment un concurrent bas coût. Ça ne veut pas dire que les coûts soient alignés, mais depuis, ça s'est beaucoup rapproché. On peut dire la même chose par rapport au Portugal. Alors maintenant, évidemment, par rapport à l'Ukraine, on a des craintes légitimes vis-à-vis des risques de concurrence déloyale, compte tenu de la dimension des exploitations et des coûts de production et du besoin absolu pour l'Ukraine d'exporter ses produits.
Qui nous permettra de revenir dans d'autres émissions sur deux autres facteurs que sont les normes, qui ne sont pas forcément les mêmes en Ukraine, parce que c'est pas dans la zone Europe, premièrement, et deuxièmement, sur la taille des exploitations, les volumes et les coûts de la main-d'œuvre également, qui ne sont pas les mêmes non plus dans ces régions-là. Si je fais la synthèse de cette première émission, c'est donc demander aux consommateurs, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectivités, de se tourner vers les producteurs locaux qui font des bons produits, qui sont normés, avec des réglementations très drastiques pour certains et qui leur permettent d'avoir des produits de qualité qui vont éduquer les papilles de nos jeunes enfants. C'est bien ça, Anaïs, j'ai bien résumé la situation?
Oui, c'est très bien résumé.
Et qui permettra, Florian, à terme, on espère, d'avoir des revenus plus décents, parce que le fond du problème, il est double, c'est faire reconnaître la place de l'agriculteur dans ce qui est vital, dans la nourriture. Et deuxièmement, c'est que l'agriculteur qui est au centre de cette alimentation puisse vivre correctement son travail.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est que nous qui produisons la nourriture, on préfère, comme disait Dominique, avoir le consommateur en face de nous, mais on voudrait aussi pouvoir vivre de notre métier, donc c'est à la fois ces deux paramètres. Si le consommateur revient, on a les deux, et là c'est parfait quoi. Là, s'il revient dans nos fermes.
Là, vous commencerez à croire au Père Noël.
Ouais, voilà, mais il faut qu'il prenne conscience qu'aujourd'hui, il faut qu'il arrête de mettre plus d'argent dans le service de livraison que la valeur du produit qui se fait livrer, quoi. Clairement, c'est ça, quoi.
Avec la difficulté, malgré tout, c'est que pour se nourrir auprès de chaque producteur, il faut faire du porte-à-porte. après, c'est à l'huile, la volaille, le fromage, les pâtes, etc.
Pas que, les agriculteurs. On a quand même réfléchi à certains systèmes. Vous avez des systèmes de ruches, vous avez plein de systèmes aujourd'hui. Moi, j'étais ce matin à Toulouse, on est plusieurs à livrer sur Toulouse, on est plusieurs à livrer des ruches, des systèmes d'AMAP. Donc, quand on dit revenir dans les fermes, c'est revenir acheter des produits de producteurs, mais on sait délocaliser notre ferme pour faire un marché, pour faire... Le consommateur n'a pas besoin de sortir de la ville, on va dire, pour caricaturer, pour trouver nos produits.
Dernière question pour vous, Anaïs. Vous disiez une petite structure avec vos 80 brebis pour faire votre fromage. Vous avez trouvé des solutions de distribution direct à direct, c'est quoi?
J'ai démarré avec des AMAP, donc 3 AMAP qui, du coup, c'est très soutenant, c'est assez précieux parce que c'est sous forme de contrat. Donc pour démarrer la vente, ça marche bien. Et puis ensuite, la vente à la ferme. Et aussi, récemment, j'ai démarré la vente sur Caget, qui est une des commandes en ligne, et où plusieurs producteurs, justement, se regroupent au sein d'une même ferme pour que le consommateur, le client, n'ait pas à courir de ferme en ferme.
Frédéric, dernière question également. L'avenir de l'agriculture telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est quoi les solutions?
Je serais présomptueux à parler de solutions comme ça, mais il est vrai que je pense qu'il faut un débat national ou concertation nationale ou régionale par rapport à la vision qu'on veut donner à l'agriculture. Effectivement, on parlait de la fonction nourricière, on en a beaucoup parlé. Il y a une fonction de préservation des paysages, ou qu'on peut dire également agroécologique, une fonction sociale, le relationnel dans les campagnes. sans oublier une fonction d'exportation. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat collectif. On a connu plusieurs grands débats, mais sur savoir ce qu'on veut et en tirer les conséquences. Mais je crois quand même, in fine, il faudra que le consommateur soit prêt à mettre un peu plus d'argent dans son alimentation.
Un peu plus d'argent, et aussi, on revient sur l'aspect historique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a sectorisé géographiquement l'agriculture en disant on va mettre tel type de production dans le nord, par exemple, tel type de production dans le sud-ouest, etc. On a fait une espèce de taylorisation de l'agriculture, et le fait de revenir sur des circuits courts locaux, ça veut dire remettre de la diversité dans nos régions.
Oui, je pense qu'il y aura toujours une agriculture spécialisée. Il y a des avantages comparatifs à certains endroits qu'on connaît bien pour faire des céréales. D'autres ne feront que l'élevage. Donc, spécialisation, oui, mais là aussi, il y a les agriculteurs et les agriculteurs. Et faire de la diversification, c'est un goût, c'est un choix. Donc, n'oublions pas les agricultures et le potentiel des pays dans lesquels elles s'exercent, mais aussi la volonté des agriculteurs en tant qu'entrepreneurs de choisir leur production.
Et Dominique, je vous laisse le mot de la fin.
Moi, je vais dire, il y a la vente directe, ça existe. Mais elle ne peut pas tout faire. Par contre, c'est au consommateur. J'ai une réflexion d'une personne qui m'a dit l'autre jour, j'ai entendu tous ces débats à la télévision, à la radio, et j'étais dans ma grande surface et j'ai essayé d'acheter français. J'ai eu du mal. Voilà. Alors si j'ai bien compris, on va parler de normes lors d'une prochaine...
On essaiera. On a fait juste amorcer, je dirais, la problématique, mais... Est-ce que nos politiques ont toutes les clés en main parce qu'il y a l'Europe au-dessus d'eux qui va imposer certaines choses ou pas? Les problématiques de PAC, les problématiques de normes, etc. Je pense que ça nécessitera d'autres interventions avec d'autres personnes du milieu de l'agriculture ou pas d'ailleurs, afin qu'on ait un éclairage complet sur la question. Madame, messieurs, je vous remercie beaucoup. Et puis écoutez, bon courage à vous dans vos exploitations respectives.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
De Riom à Haute-Rive, de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.